Bonjour et bienvenue comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Juliette Medevielle, avec à la technique aujourd'hui Nicolas Slimani et Julien Dumont.
Aujourd'hui, en roue libre avec les coursiers ubérisés et avec la Cité des Marmots, éducation populaire aux différentes cultures.
Aujourd'hui, il y a une sous-classe ouvrière qui s'appelle coursier ubérisé.
Je suis avoir répondu un peu en provocation que pour moi, le bambara, c'est une langue régionale en Ile-de-France.
Quand vous recevez vos dim sum chauds qui fument encore, eh ben, y a un type qui est venu et qui est payé 2 euros pour faire la course.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court et qui slalome aujourd'hui entre l'univers des coursiers ubérisés et celui des marmots métissés. Entre ce que le monde économique nous prépare de pire et ce que l'éducation populaire nous offre de meilleur, n'en déplaise aux tenants d'une identité figée. Deliveroo, Foodora, Take It Easy, en pleine Coupe d'Europe de football, quel supporter ne serait pas tenté de commander en deux petits clics un repas livré où que vous soyez ? Pratique et efficace. Mais sous les coups de pédale, les coups de burin, qui démolissent tous nos acquis sociaux durement conquis. Car après les taxis, c'est au tour des vélos d'être à l'avant-poste de la précarisation du boulot. Comme un avant-goût de ce que nous réserve l'avenir une fois le code du travail démantelé. Pardon, simplifié. Le retour du travail à la tâche, vendu comme du rêve. Pour te payer un costard, il faut bosser, nous disait notre ministre. Mais combien de repas faut-il livrer pour se le payer ? Combien de kilomètres à slalomer par tous les temps, sans penser au risque, pour 7,50€ la course, qu'il faudra ensuite diviser par deux ? Parce que dans le monde merveilleux de l'auto-entrepreneuriat, les charges patronales se changent en charges pour ta pomme. Heureusement, il y en a d'autres qui n'hésitent pas aussi à payer de leur propre personne pour redresser l'économie et les budgets du service public. Nagui, par exemple, eh bien lui, il fait du bénévolat à France Inter, et oui, et son modeste caché, c'est même pas un salaire, à peine un défraiement, a-t-il dit sur Europe 1. De quoi faire verdir tous les ubérisés de la société. Mais toutes ces questions économiques, c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français en ce moment, c'est leur identité. Leur identité française menacée dans ses fondements. Demain, vos enfants apprendront l'arabe au CP. Et le jour d'après, c'est votre femme en burqa, si rien n'est fait. Après le discours de Nicolas Sarkozy à Saint-André-les-Lilles, c'est la surenchère à droite. Alors loin des fantasmes d'invasion islamique et de péril communautaire, Antoine Chao, lui, nous emmène à Stain, en Seine-Saint-Denis, où des élèves de primaire apprennent à chanter en espagnol, en grec, en corse et en arabe. À la Cité des Marmots, on fait des belles choses pour apprendre aux enfants à devenir de bons citoyens. De quoi rafraîchir l'atmosphère quand ça semble renfermé. Comme un bruit qui court, en roue libre, avec les coursiers ubérisés et en chanson à la Cité des Marmots, c'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Sac à dos sur les épaules, casque vissé sur la tête. Ces dernières années, les livreurs à vélo se sont multipliés dans les grandes villes françaises.
Derrière ces coursiers, on trouve des noms comme Foodora,
Deliveroo
ou encore Take It Easy.
Elles assurent l'encaissement en ligne du client, la transmission des commandes au restaurant et la livraison par un coursier à vélo.
Instantanément, la plateforme géolocalise les livreurs dans le secteur, au premier disponible d'accepter la course.
Un nouveau métier qui peut rapporter jusqu'à 3 000 € net par mois.
Ils sont étudiants, chômeurs ou même artistes. Ils envahissent toutes les grandes villes d'Europe avec leur vélo.
Mais à une condition, prendre le statut d'auto-entrepreneur. Ce mode de fonctionnement permet surtout à ces jeunes entreprises de s'exonérer de charges sociales.
Comment fonctionnent-elles ? Qui sont ces transporteurs d'un nouveau genre ? Et quelles sont leurs réelles conditions de travail ? Plongé au cœur d'un business évalué à plusieurs dizaines de milliards d'euros.
En roue libre, vous les avez vus passer dans les rues de nos grandes villes avec leurs sacs sur le dos, Deliveroo, Toc Toc Toc, Foodora, Take It Easy et bientôt Uber Eats. La livraison de repas par des coursiers à vélo, elle vend en poupe. Et quand certaines sociétés annoncent 15% de croissance par semaine, d'autres peuvent se targuer d'avoir levé 160 millions d'euros de financement. Pendant ce temps-là, on estime à 6 000 le nombre de livreurs coursiers à vélo en France, autant d'auto-entrepreneurs auto-entrepreneurs, pardon, sans droit et sans protection sociale. Je dis ça sans forcer, puisque je suis bombardé par des mails depuis des mois de services de presse, comme celui de Foodora, qui me vante sa société comme l'un des acteurs incontournables de l'ubérisation en France, c'est écrit tel quel dans le texte, et qu'il me précise ensuite qu'ils sont à ma disposition pour tout complément d'information et pour toute demande de prise de parole. Moi, je vous avoue, j'adore quand le reportage est facile comme ça, en roue libre, jusqu'à votre assiette.
Bonjour, je vous contacte du bureau de presse Pascal Venot et je m'occupe des relations presse pour Deliveroo. J'ai bien reçu votre demande, n'hésitez pas à me rappeler pour discuter du sujet que vous souhaitez réaliser sur Deliveroo. Voilà, je vous remercie beaucoup, bonne journée à vous, au revoir.
Oui, je vous rappelais au sujet du reportage avec Deliveroo, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous remercie, au revoir.
Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
Laurent Guillerenco, bonjour.
Oui, bonjour, je cherchais à joindre le service de presse de Foodora.
Ne quittez pas, merci. Oui, allô, vous êtes revenu au standard, je peux prendre un message, vous aider?
C'était juste pour avoir des nouvelles sur le reportage avec Foodora.
Très bien, écoutez, c'est noté, je lui enverrai un email pour le lien.
Du represse Pascal Venot.
Agence Laurent Guillerenco, bonjour.
Ah, elle n'est pas à son bureau actuellement, je pense qu'elle doit être en rendez-vous avec son attaché, je peux prendre un message?
Très bien, un instant, je vais voir si c'est disponible. Oui, c'est bien son téléphone, et elle a laissé au bureau, elle a un rendez-vous à l'extérieur, est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour, je suis l'assistante, je peux vous aider?
Oui, j'appelais suite à des échanges qu'on a eus par téléphone et par mail jusqu'à la semaine dernière. Le service de presse m'avait proposé une interview vendredi.
D'accord.
Qui a été annulée à la dernière minute en disant qu'on retrouverait une date cette semaine et ça fait 3 jours que j'essaie d'avoir des nouvelles pour une interview avec Foodora.
Ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de vous faire un retour le plus rapidement possible. Bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Bureau de presse Pascal Venot.
Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de la demande de reportage pour Deliveroo.
Ça ne va pas être possible. Physique ou téléphonique, en fait.
Téléphonique, c'est pas possible?
Oui, voilà. C'est pour ça qu'on m'a proposé de vous demander de nous envoyer vos questions par mail et nous efforcerons de vous répondre le plus rapidement possible.
D'accord, mais parce que vous vous rendez compte que pour un magazine de reportage, c'est pas très radio, quoi, de faire une interview par mail.
Oui, je comprends tout à fait. Après, moi, c'est vraiment une question de temps. Les managers n'ont pas vraiment le temps.
D'accord. Et pour les reportages avec les livreurs?
Mais ça va être la même chose, du coup, en fait.
Deliveroo, ils veulent pas, en fait, ils ont pas le temps, quoi.
C'est une question d'agenda, tout simplement.
Ça ressemble un peu à une fin de non-recevoir. Ils veulent communiquer, mais ils ont pas le temps de communiquer.
Entre autres, si vous déduisez cela de ça.
Bon, tant pis.
Écoutez, je vous remercie de votre appel. Bonne journée à vous, au revoir.
Au revoir. Bon, vous l'avez peut-être compris, pour un début de reportage sur les livreurs à vélo, ça commence un peu mal quand on se fait balader par les services de presse. Résultat de 2 choses l'une, ou bien laisser tomber, ou bien aller voir par nous-mêmes ce que les communicants de ces start-up n'ont pas envie d'étaler, poser les questions auxquelles ils n'ont pas envie de répondre. Me voici donc à Paris, à Place de la République, parce que c'est un des rendez-vous des coursiers, des livreurs de repas, quand ils sont en attente de commande. Il est encore tôt, bientôt 18h, et ils sont là, en train d'attendre et de discuter avec leur propre vélo, leur smartphone, leur glacière et leur logo, en allant à la rencontre de Mathieu, livreur de repas à vélo lui aussi, qui fait partie de ceux qui ont décidé de monter un collectif pour faire valoir leurs droits de livreur, auto-entrepreneur, prêt à répondre au moindre de vos clics, à la moindre de vos fringales, coursier ubérisé. Bonjour.
Bonjour,
ça va bien?
Oui, vous. Bonjour.
Je vous retrouve avec votre t-shirt, là, marqué du slogan.
Oui.
Vous travaillez pour qui? On peut dire ou pas?
Oui, on peut. Principalement, je suis pour Equitizy.
Et là, pendant qu'on dit ça, on passe devant la concurrence, quoi, juste derrière vous.
On passe.
Place de la République.
Effectivement, on passe devant les gens de Foodora.
Eux, ils ont un t-shirt rose.
T-shirt rose, à part ça, on a à peu près le même système de livraison. Il n'y a pas énormément de différence. Ils ont un forfait par heure, si je ne me trompe pas, qui est à 7,50€.
Et vous ?
Nous, chez Taikit, on est à 7,50€ la course.
Et vous avez une idée d'ailleurs de combien il y a de gars à vélo une journée comme aujourd'hui dans Paris ?
Alors, en France, on a un chiffre de plus de 5000 coursiers, dont plus de 3000 à Paris.
Bah, on peut aller voir deux minutes ou quoi ?
Gauche des mini montants. Mais alors le dénivelé que tu te prends dans les cuisses.
Bonjour, bonjour. Je vois que vous avez des mains plein de cambouis. Vous êtes il y a des gars qui sont en train de faire réparer les chambres à air, d'autres qui revoient les chaînes, d'autres qui sont en train de pomper. Vous travaillez avec concurrence, mais vous faites le même boulot.
Il faut savoir qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas concurrent entre nous. On travaille sur le même marché qu'on nous a proposé par rapport à des boîtes, elles, qui sont concurrentes.
Vous aussi, vous êtes coursier ? Je vous vois arriver, vous êtes super équipé avec une LED, une GoPro, une petite caméra.
C'est l'avantage aussi, de s'il a un souci, d'accident de la route non réglé, d'avoir une preuve sur lui.
Et donc, vous filmez en permanence vos courses ?
En espérant, bien sûr, qu'il n'arrive rien. C'est-à-dire que c'est vraiment, je le garde en tant que preuve au cas où. Parce que j'ai commencé qu'à partir de fin janvier. Et c'est vrai que j'y suis arrivé un petit peu fleur bleue. On va travailler pour une start-up. Je vais continuer. Ça va être la prolongation de ma passion du vélo. J'en avais marre de tourner autour de Longchamp. Et puis quand on m'a dit, bah tiens, viens faire la même chose que moi. Va livrer des repas pour les Parisiens. Je dis, tiens, pourquoi pas. Vous voyez, je suis habillé comme un pingouin en jaune avec un gilet jaune fluo.
Au-dessus de votre maillot de la marque. Est-ce que vous amenez quoi pour tout ça, pour ce boulot ? Il y a votre caméra, ça coûte, je sais pas, 300 euros.
Oui, mais ça, c'est tout mon matériel perso. C'est-à-dire que,
il y a votre casque.
Il y a le casque.
Un vélo, effectivement, pas mal, ça doit coûter bonbon, un vélo comme ça.
Très cher. C'est-à-dire, la paire de roues est faite sur mesure, elle vaut peut-être 750€ et tout le reste est quasiment introuvable. Donc, c'est complètement irresponsable de ma part d'aller rouler avec ça. Mais voilà, sur 4 heures de course vélo, il faut son minimum de confort.
Et alors, du coup, en 4 heures, vous arrivez à gagner combien en moyenne ?
On arrive à gagner combien ? C'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on dépend de ce qu'on appelle le dispatch, qui est surtout une sorte peut-être de big brother qu'on ne connaît pas et qui va attribuer les courses aux coursiers avec ses aléas. C'est-à-dire on va être dans le bon quartier et on va avoir des séries de courses qui vont s'enchaîner. On va être dans le mauvais quartier, on ne va pas avoir de courses. Bah, c'est de l'argent en moins qui rentre.
Pour vous, et que pour vous.
Parce que je ne suis
qu'un... Parce que le restaurant ne perd rien et votre boîte ne perd rien. C'est juste vous qui toucherez moins.
Ah oui, puisque je suis rémunéré à la course.
750 la course. Ouais. N'oublie pas les minimums.
Oui, voilà, les minimums, donc ça fait...
Ça dépend en fait des créneaux qu'on a choisis.
En fait, ils choisissent, alors selon notre créneau, court ou long, le midi ou le soir, week-end ou semaine. Par contre, ceci dit, si un jour il pleut, il y a un bonus. Pluie, il y a des bonus time banque, temps, kilomètre banque, qui sont selon les journées.
C'est imbitable votre truc, je suis désolé, hein, mais c'est tellement compliqué.
Dans la vie, faut pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pour t'élancer, dès le départ, faut respirer. Vas-y, Mino, trace tout droit pour avancer. KNK, escalader la fin du mois.
C'est vrai que je suis arrivé très fleur bleue sur le marché et en n'ayant absolument pas conscience que ce que c'était l'ubérisation des personnes. Et c'est vrai que quand j'ai lu le contrat, alors je ne sais pas si c'est proprement un contrat de travail ou pas, là j'ai un peu déchanté et voilà, je suis dans un entre-deux où je ne peux pas dire que j'aime ce que je fais ou que j'aime pas. Voilà, j'essaye de me placer dans tout ça.
Et là, je vois, pendant que vous parlez, je vois des gars qui arrivent avec des super vélos aussi.
Et oui.
Ça, c'est des cyclistes passionnés, vraiment. Et qui font livreur à vélo parce que ça leur permet de vivre leur passion, tout simplement.
Kryptonite, ça s'appelle.
Oui, là, c'est des warriors.
Ici, au single. Hein. Là, c'est du vélo qui coûte au moins dans les 2000 euros.
Ah, vous partez, ouais. C'est le début du shift ?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Je vais y aller.
Et vous bossez aussi ?
Ouais, je bosse.
Je suis en shift aussi, exactement.
Ça commence là ?
Bah, ça commence à 18h30, mais il faut se connecter 15 minutes avant, généralement.
Ah ouais ?
Ouais.
Bon. On pourrait montrer qu'on est sur zone.
Voilà, c'est ça.
Vous faites ce boulot depuis combien de temps ?
Moi, ça fait à peu près 2 mois et demi.
C'est tout neuf alors.
Ouais, mais j'étais chez Foodora avant et. Enfin, je suis encore chez Foodora et je fais les deux. On peut tout faire, vu que je suis prestataire de service, on peut tout faire quoi.
Du coup, vous faites ça à plein temps ?
Non, moi c'est juste pour me payer des études après ou un voyage. Et voilà.
C'est quoi votre prénom ?
Ismaël.
Ismaël, vous avez quel âge ?
J'ai 19 ans.
Ah oui, donc encore.
Je suis jeune encore.
Et vous, le côté auto-entrepreneur, c'était pas un problème pour vous ?
Au début, ça me posait un problème parce que c'est la première fois, on va dire, que je paye des impôts. C'est ça qui me stressait un peu en fait, mais en fait c'est relativement simple. Quoi.
Et l'assurance ?
L'assurance c'est pas obligatoire, on peut nous en proposer une, mais voilà.
Vous en avez du coup ?
Non.
Et la retraite ?
La retraite je ne sais pas du tout, pour l'instant j'ai 19 ans donc.
Donc en fait vous êtes parfaitement dans la cible de ces boîtes, quoi. Jeune, sportif, qui a envie d'un peu d'appoint et qui n'est pas très regardant sur la protection sociale ?
Non, pas trop.
Ils sont forts quand même, ils ont trouvé les travailleurs qu'il fallait.
On est un peu des esclaves.
Alors est-ce qu'on en vit ?
On peut en vivre. Après, c'est le système de l'auto-entrepreneuriat. Comme n'importe quel auto-entrepreneur, il y a des bons, il y a des mauvais mois. Le plus haut taux chez Take It, en tout cas, que je connais de rémunération, c'est un livreur qui s'est fait 2000 euros la période, donc 2 semaines. Donc on peut lui compter facilement 4000 euros sur le mois, sans les bonus, si je ne me trompe pas.
Alors là, on se dit, waouh, 4000 euros par mois,
mais je vais le faire.
Je vais prendre mon vélo et tout ça. Sauf que on est auto-entrepreneur, donc il faut aussi compter l'usure du matériel, il faut aussi compter la fatigue. Vous voyez cette perversité, c'est-à-dire que oui, là, on vous annonce 4000 euros pour le meilleur. Bon, après, il faut aussi voir les impôts qu'on va payer, la CFE, enfin, toutes ces choses-là qu'on ne nous dit pas.
Une fois tout retiré, on peut monter jusqu'à 50% de perte sur le chiffre d'affaires.
Ah ouais ? Ce qui est des cotisations patronales devient des charges pour vous qui pédalez.
C'est ça.
Complètement. C'est exactement ça.
Donc vous êtes obligé de pédaler 2 fois plus pour avoir les mêmes droits. S'il faut payer la sécu, la santé, la retraite...
Oui, mais ça c'est le problème de tout auto-entrepreneur. On a choisi ce statut.
On n'a pas choisi ce statut particulièrement. C'est-à-dire on nous a dit qu'il faut que tu sois auto-entrepreneur pour toucher ton argent. En fait, quand on débute, on n'a pas conscience de ça. On se dit, chouette, je vais transporter des repas d'un restaurant à un particulier. Mais il y a toute cette réalité qui... Enfin, moi, qui me sont sautés à la figure en disant, mais... En fait, ce système est bien, oui, mais c'est sans filet et c'est d'une violence extrême par rapport à la France qui se veut sociale. Enfin, qui a des bases sociales, je ne sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en prenant ce boulot, je me suis un peu réveillé. Je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui se sont battus il y a peut-être 70 ans de ça pour qu'on ait cette chose dont on ne se rend absolument plus compte, où c'est tout à fait normal et qui est en train d'être mis à mal par ces nouveaux acteurs du marché. Et c'est là où j'espère que, par exemple, le collectif de coursiers, j'espère qu'en ayant une réflexion posée tous ensemble pour trouver un juste milieu entre tout ça. Vous voyez, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment réfléchir parce que je n'ai pas du tout cette culture du syndicat et tout ça. Je l'ai même plutôt en ce moment un peu à l'inverse. Comment faire ?
Et là, vous repartez bosser du coup ?
Ouais. De 18h30 jusqu'à 22h30 à peu près.
Bah bon courage, alors bonne tournée.
Bah on va essayer.
En tout cas, là, le petit spot qu'on occupe depuis maintenant un petit moment, Place de la République, c'est à peu près vidé parce que c'est l'heure où les gens commencent à avoir faim et c'est l'heure où les coursiers qui étaient pour leur chiffre sont partis bosser.
C'est ça, il est à peu près 19h et là c'est l'heure où les restaurants commencent à ouvrir et donc elles commencent à partir. Donc, tous nos collègues, à part quelques-uns qui attendent la première commande, sont tous partis.
Ah oui, c'est ceux qui n'ont pas été encore bippés.
C'est ça, il faut le temps que l'algorithme attribue les courses à tout le monde.
C'est magique cet algorithme.
On ne sait pas trop comment il fonctionne, c'est le problème. On aimerait, le collectif aimerait clairement avoir plus de précisions là-dessus. Malheureusement, on sait que ça n'arrivera jamais, question de confidentialité.
Secret commercial.
C'est ça.
Et pendant ce temps-là, on voit là, doucement la place de la République qui est à nouveau en train de se remplir et la radio debout qui installe sa tente et des gens qui viennent pour parler.
La réforme du code du travail,
on voit bien que ça.
C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles,
on voit mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
non, on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on vaut mieux que ça.
Qu'une cesse nous gouverner par vos lois,
on vaut mieux que ça.
La loi et le Khomri,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu, nous,
on vaut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix,
on vaut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on vaut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière qu'en euros. La pyramide de refaut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée.
On vaut mieux.
Repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les impartiels à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on veut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en avirer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison mais on veut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on veut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on veut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on veut mieux. Oui, patron Jacques, on veut mieux,
ouais, on veut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on veut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer puis déprimer,
on veut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on veut mieux que ça.
Sous les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on veut mieux que ça.
Et la pointe c'est 50 pour t'en fait d'affront,
on veut mieux que ça.
Faire taf, non,
on veut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on veut mieux que ça.
On veut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado.
C'est vrai qu'on veut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier,
et on vaut mieux que ça.
Notre pouvoir pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner.
Car on vaut mieux que ça.
Sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien. Combien vaut-on à ce stade-là? On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix. Pas de prix.
On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça.
Un gros beau soleil maintenant, place de l'Opéra à Paris. À défaut d'avoir pu rencontrer les entrepreneurs ou visiter les sociétés des livreurs que sont Foodora, Deliveroo, etc., ben, peut-être un peu de l'autre côté du miroir, vous avez la promotion, vous avez les clics, vous avez les pubs et les campagnes virales sur les réseaux sociaux. Vous avez ces cyclistes qu'on voit passer de plus en plus dans toutes les grandes villes, avec leur logo et leur paquet. Et puis, il y a ce qu'ils racontent. Et c'est pour ça qu'on a un rendez-vous un peu secret, un peu délicat à faire. Ah, voilà mon rendez-vous.
Comme toujours, j'ai vu un vélo, je me suis dit là,
ouais.
Ça va bien. Là.
On va aller trouver un endroit plus tranquille. Alors, vous avez préféré qu'on change votre prénom? Comment je vous appelle?
Vous m'appelez Roger. Roger. Roger, c'est bien.
Et Roger, vous voulez qu'on change votre voix?
Oui, effectivement, c'est pas plus mal parce que j'ai besoin de bosser. Et parce qu'on est toujours ennuyé, on n'a pas envie de se griller, quoi.
Qu'est-ce qui vous a amené dans ce boulot? Qu'est-ce qui vous a attiré au début pour faire la livraison de repas?
Qu'est-ce qui m'a attiré? J'ai été coursier avant, je transportais des prothèses dentaires et des téléphones cassés sous statut salarié. À la fin de mon CDD, j'ai rencontré un type dans une boutique de vélo qui m'a dit « bah va voir telle boîte de course qui recrute en ce moment ». Je suis arrivé et on m'a dit « bon ok, bah voilà la méthode, tu t'inscris en auto-entrepreneur et on commence à bosser ensemble, tu vas shifter de telle heure à telle heure, blablabla ». Voilà.
Et vous, auto-entrepreneur, ça vous dérangeait pas a priori?
Pour être honnête, je savais pas vraiment ce que c'était et c'est du boulot. Et puis c'est très bien vendu, il faut dire que c'est extrêmement bien vendu. Quand on arrive à la réunion d'information, c'est « mec, on te file du taf, vas-y, c'est génial, on est une start-up ultra moderne. Regarde, on a des bureaux géniaux, on est dans un loft qui vend du rêve comme dans les films américains. Et bah, quand vous n'avez pas de boulot, que vous êtes bac-2, vous y allez et vous avez l'impression de parler à Dieu, quoi, votre sauveur. Donc la vie est belle, vous travaillez. »
Alors, moi, je vois, là, je voyais un article du Figaro du 20 mai dernier dans le Figaro Économie. La livraison de repas à domicile, un jackpot pour les cyclistes.
Alors, un jackpot pour les cyclistes, je vous assure, moi, j'ai bien testé. Forcément, hein, quand vous travaillez 60 heures par semaine, vous finissez par faire du chiffre. Mais ça peut pas être durable. Moi, je parle de 2000 et quelques euros pour 60 heures par semaine.
Rapporté au SMIC horaire
Rapporté au SMIC horaire, c'est moins d'un quart du SMIC. Je le sais bien, mais tous les mecs, si vous allez parler avec Toc Toc Toc, tout ça, il y a des types, ils disent qu'ils calent 3000. Imaginez l'état de fatigue des mecs. Je vous assure, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vacances. En 15 mois, j'ai pris un week-end de 2 jours où je suis allé dans la Creuse, où je me suis dit, ouais, je suis un peu fatigué là. C'est le jackpot au niveau financier. Bah non, parce que c'est pas le jackpot, parce que Là-dessus, il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas de sécurité sociale, de retraite et tout ça. Ils le disent pas, mais c'est un nivellement par le bas et il ne faut pas rêver. On glisse doucement vers l'exclusion. Moi, hier, je parlais avec un ancien de Deliveroo. Il est parti en vacances. Quand il est revenu de vacances, il n'a pas récupéré ses shifts dans le système. C'est récupéré ses plages de travail. Et bah, résultat, grosse baisse de revenus, il n'a pas pu payer son loyer. Donc il est parti habiter chez un pote en se disant « ça va s'arranger, ça s'est pas arrangé ». Il me dit « je retourne chez mes parents ». Voilà.
Il a suffi qu'il parte en vacances.
Il est retourné chez ses parents. Voilà. Donc pour se sortir de là, quand vous êtes coursier uberisé, une situation pareille, bah, je lui ai souhaité beaucoup de courage. Voilà.
Ouais, vous dites coursier ubérisé, c'est ça, c'est vraiment un des symptômes de l'ubérisation maintenant, c'est à vélo.
Bah oui, c'est la course et je crois comprendre qu'ils veulent étendre ce modèle un peu à tout. Toute la livraison de repas, ils réinventent la loi et ils disent à des mecs qui sont pas renseignés, voilà le système c'est ça, vas-y tu peux bosser, go. Voilà.
Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pétaler devant moi.
Au début, ça m'a attiré parce que c'était bien vendu, et maintenant, je me rends compte que c'est pas un système possible sur le long terme. Tous les gars avec qui je parle s'en rendent compte, certains au bout de 6 mois.
Est-ce que vous en êtes où maintenant, alors ?
Ma situation est assez dramatique, là, tout de suite. Moi, maintenant, je suis un peu au bout du système. J'étais au RSI hier faire une demande d'action sociale parce que
vous avez pas de chômage.
Donc je sais pas ce qui va venir les prochains jours. On va bien voir. Moi, traditionnellement, je suis plutôt de droite, j'ai toujours voté à droite, mais cette expérience-là, ça a fait naître chez moi une véritable conscience politique. À force de lire des trucs à droite, à gauche, je finis par comprendre que il y a eu Louise Michel, il y a eu Jean Jaurès, ils ont fait des trucs géniaux, j'en profite. Et il y a des gens qui se sont battus, Louise Michel, elle est allée au bagne pour vous. Donc oubliez pas ça, quoi. Il faut qu'aucun livreur oublie ça. Et qu'il faut le défendre, et c'est très important. On peut pas laisser des grosses boîtes comme ça détruire notre système pour en réinventer un autre. Qui est une régression, alors défendons-le, vraiment.
C'est une bonne conclusion, et je vous laisse repartir avec votre vélo, Roger. Okay. Un beau vélo de sport, avec le sac à dos toujours, et le casque.
Merci.
Bonne continuation, au revoir.
Au revoir.
Et voilà, il file. Livraison de repas à vélo, en roue libre. Une belle allégorie de notre système et notre droit du travail face à la législation changeante de la loi travail et les nouveaux acteurs de l'ubérisation des travailleurs. Après les voitures, les vélos, après les taxis, les livraisons, nous sommes tous ubérisables.
Il faut y aller, il faut être courageux et ambitieux.
Ce qu'on propose, c'est à tous les auto-entrepreneurs qui travaillent avec nous, la liberté totale sur leur planning.
Il faut décrire le contexte économique de Foodora. Certains parlent de la food war, et la food war, c'est une guerre qui se gagne avec ses couilles, son couteau.
Ça nous permet d'attirer ces gens justement qui ont, de par leur activité, s'ils sont étudiants par exemple, besoin de cette flexibilité-là.
Mais pour certains, comme Jérôme Pimaud, ce statut imposé par les plateformes est trop précaire. Pour y mettre fin, le livreur assigne au prud'homme son ancien employeur.
Tous les jours, comme même comme aujourd'hui, un jour de pluie, on voit passer des coursiers avec leur logo sur le dos en train de livrer des repas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Moi, je me suis pété le poignet parce que c'était... Il pleuvait plus, mais il avait plu dans la journée. C'était mouillé et j'ai glissé. C'est tout bête, un accident, mais c'est tellement con à la base, quoi.
Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes toujours branché avec votre téléphone, donc vous êtes toujours la course derrière. Qu'est-ce que vous faites?
J'étais parti pour aller chercher une commande dans un restaurant. J'ai essayé de rattraper mon vélo. J'ai repris mon vélo. J'ai vu que je pouvais plus le serrer avec ma main gauche. J'ai dit, oh là, il y a un truc, quoi. Là, je pourrais pas, ça me faisait trop mal. Donc, j'ai appelé Take It Easy, je leur ai dit que j'avais un accident et puis que je pouvais plus continuer. Bon, ok, bah écoute, tu te déconnectes, on te déconnecte et puis bon rétablissement, quoi. Et puis, j'ai laissé tomber parce que je savais qu'il y avait Deliveroo qui arrivait et je suis allé voir Deliveroo.
Il y a toujours ce management de la prime ou de la pénalité.
On n'a plus des salariés avec des droits, on a des commerçants sans aucun droit. Donc c'est facile de les manier à la schlag. Au début, j'étais corporate, j'y croyais, quoi. J'ai même joué des mecs dans la rue, je leur dis « Viens bosser chez Toc Toc Toc, parce que c'est cool. » Mais quand j'ai compris comment ça se passait, les erreurs de facturation qui étaient toujours pour eux, quoi. On me dit « Ah, mais c'est l'algorithme, il y a des bugs. » L'algorithme, il emmagasine la donnée, la valeur vitesse, la variable vitesse. Plus tu es rapide, plus tu as potentiellement de course. Et moi, je dis, il est là le drame, c'est que ta rémunération ne peut pas être liée à ta prise de risque. Ça, n'importe quel politicien, même de droite, il ne peut pas le dire. Il peut le penser, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas l'assumer. Surtout en vélo, dans Paris, tout le monde sait que c'est dangereux.
C'est pour ça que vous dites quelque part, j'ai lu, moi je viens du futur.
Moi, en fin de compte, oui, j'ai vu ce qu'il y avait après la loi El Khomri. Parce que la loi El Khomri, c'est principalement pour les salariés, même s'il y a un petit article 27 bis qui traite des plateformes numériques, elle est faite pour les employés. Mais c'est la bibliothèque rose, la loi El Khomri, à côté de ce que nous réservent ces plateformes, en fait. C'est de la bibliothèque rose. Alors les gens se battent parce qu'ils sont salariés, parce que bon, ils veulent garder leur statut, leur droit du travail. Moi, j'en ai déjà plus. J'en ai déjà plus des droits du travail. J'ai plus de cotisation, j'ai plus rien. Donc là...
Donc plus aucune protection.
Quasiment pas, quoi. J'aurais pas de retraite, quoi. C'est pas ça, la modernité. Qu'on vienne pas me dire que c'est de la modernité. Ou même de la liberté. Non, non, il y en a pas. Ni moderne, ni libre. C'est tout le contraire. C'est le Moyen-Âge.
Bon, en attendant, c'est l'heure de retourner bosser sous la pluie, là.
Mais bon, ça va, c'est pas... La pluie, on s'y habitue et on fait avec, quoi. L'important, c'est pas d'être au sec, c'est d'être au chaud.
Le boulot ce matin, il n'y en a pas. Le boulot ce matin, il n'y en a pas. Même si tu veux travailler, il faudrait qu'ils veuillent bien embaucher. Le boulot ce matin, il n'y en a pas. Le boulot ce matin, il n'y en a pas. Le boulot ce matin, il n'y en a pas. Faut attendre et patienter qu'on veuille bien t'acheter la journée. Le boulot ce matin, y'en a pas. Le boulot ce matin, y'en a pas. Le boulot ce matin, y'en a pas. Ils disent pas de chance, pas de beau. Il aurait fallu venir plus tôt. Le boulot ce matin, y'en a pas.
Jérôme Pinault est un des premiers à avoir traîné au prud'homme ses employeurs qui se refusent le statut d'employeur. Le résultat viendra ce mois-ci à suivre dans Comme un bruit.
Hashtag comme un bruit qui court
sur France Inter.
L'entrée du groupe scolaire, j'ai rendez-vous avec la directrice.
La première porte où il y a la petite voûte là, vous rentrez et c'est tout droit.
D'accord.
Voilà, c'est le primaire.
Merci.
Ville de Stein dans le 93, école Victor Renel, une école élémentaire. Et il y a une action du festival Ville des musiques du monde. Ici.
Je m'appelle Stéphanie Gouron et puis je suis directrice de l'école Victor Renel à Stein.
Alors aujourd'hui, il y a des musiciens qui vont venir hein, dans le cadre du festival Ville des musiques du monde. Ça consiste en quoi alors cette rencontre?
La rencontre d'aujourd'hui, eh bien, les enfants vont pouvoir répéter déjà dans un premier temps avec les musiciens. Et puis à 11h30, on recevra les parents pour un apéritif, un mezzé tous ensemble.
C'est important de faire ces rencontres.
Bah oui, c'est important de faire ces rencontres, oui. Donc quand on nous le propose, eh bien on accepte toujours, parce que forcément pour les enfants c'est quelque chose d'enrichissant. C'est la découverte d'une nouvelle culture chaque année, et oui, c'est important.
Alors c'est quoi la rencontre cette année? C'est quelle culture?
Alors cette année, c'est la découverte du bassin méditerranéen. Donc, ils apprennent des chansons en espagnol, en arabe, en corse. C'est la quatrième participation de notre école à ce projet.
Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre école ?
Oui, bah, notre école, elle a presque 300 élèves, 275 exactement. On a 13 classes, du CP au CM2. On a une CLIS, c'est une classe d'inclusion avec des enfants handicapés. C'est une école qui fonctionne bien. C'est une école où on pense que même en étant dans le 93, à Stein, on peut faire des belles choses et devenir de bons élèves et plus tard de bons citoyens, j'espère. Voilà, donc nous sommes très motivés, on a une équipe qui est stable, qui est dynamique. Et du coup, bah, vous le verrez aussi ce matin, je pense que vous allez voir des élèves, des enfants qui sont motivés par les projets et qui ont envie d'apprendre.
Oui, la Cité des Marmots, ce parcours musical et éducatif de découverte des cultures du monde, ça semble indispensable quand la question identitaire remonte à la surface de la primaire à droite en ce moment et quand les candidats Sarkozy, Fillon ou Le Maire vantent la nostalgie d'une France éternelle. 440 écoliers de 18 classes primaires de CM1, CM2 dans 9 écoles de Seine-Saint-Denis, c'est pas le Pérou mais c'est déjà ça. Et c'est grâce à des associations engagées dans les processus d'éducation populaire et des enseignants tout aussi courageux et tenaces qui ne baissent pas les bras, qui sont debout quoi. La Cité des Marmots, une initiative musicale donc vivante, ouverte sur le monde, qui a mené des enfants de la scène, sur la scène de l'Embarcadère à Aubervilliers avec la compagnie Rassegna au sein du Grand Chœur des Marmots pour deux concerts où sont venues les familles et plus largement le public d'Aubervilliers. C'est en collaboration avec l'Éducation nationale et le concert à rayonnement régional d'Aubervilliers.
Alors, on va laisser les cartables là. Comment va se passer la suite ? On va aller tout de suite voir Paola, qui nous attend, pour pouvoir travailler pendant une demi-heure avec les CE2, parce qu'à 10h30, on a la compagnie Rassegna, les chanteurs, qui vont arriver. D'accord ? Donc on va descendre. N'ayez crainte, il y a un moment donné, vous aurez une pause. Mais là, oui, mais pas tout de suite. Là, il faut qu'on descende pour aller voir Paola, elle nous attend. Donc là, on laisse tout dans la classe, et on y va. D'accord ? Alors, rangez du fond, et on reste calme hein, dans les couloirs. Vous n'oubliez pas, position énergie numéro 3 quand on rentre dans la classe avec Paola. Hein, on n'oublie pas, hein, on est beau. On va rentrer sur scène, on est en train de s'entraîner. Allez, on y va.
Vous pouvez vous présenter
Je suis Valérie Rosfelder, maîtresse de CM1. Et c'est ma quatrième année sur les projets des Marmots.
Voilà. La Cité des Marmots, c'est ça ?
La Cité des Marmots, oui. Allez-y !
Et là, c'est une classe, donc c'est un CM1 ?
CM1, oui. Voilà. Et ils sont, quand ils sont tous là, 24. Voilà. Et certains de ma classe de l'année dernière de CE2, que j'ai cette année en CM1, donc qui avaient déjà fait le projet de l'année dernière avec la Nouvelle-Orléans.
Et cette année, c'est ?
L'Andalousie et le bassin méditerranéen. Bien ! Allez, on commence à son énergie numéro 3.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Merci. Whippity whoppity whoppity. Whippity whoppity whoppity. Vous savez, c'est pour bouger tous les articules. Les lèvres, la langue, la mâchoire. Whippity whoppity whoppity.
Alors, je suis Maïté Servière, je suis chargée de projet depuis 10 ans dans l'association Ville des Musiques du Monde. Alors, la Cité des Marmots, c'est une passerelle aussi avec notre festival, parce que la Ville des Musiques du Monde, c'est aussi un festival, mi-octobre, mi-novembre, et c'est une passerelle parce que c'est la même thématique. L'année dernière, c'était les Andalouses, et cette année, du coup, on fait la petite passerelle vers la Cité des Marmots, l'Andalousie des Marmots. On intervient dans 8 villes. Alors donc il y a une vingtaine de classes, 440 enfants qui vont apprendre 4 chansons de la compagnie Rassegna. Donc il y a 12 séances d'une heure. Alors c'est un travail de professionnel, on peut dire, comme les enfants qui sont inscrits au conservatoire. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance, les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas, ou ne savent pas peut-être, inscrire leurs enfants au conservatoire. Donc nous, on a envie vraiment, c'est une volonté aussi de l'association, que tous les enfants puissent avoir des vrais cours de musique. Parce que la musique, on sait, c'est quelque chose qui, du coup, apaise les enfants, c'est fédérateur.
Alors il y a des intervenants, il y a une prof de musique,
c'est Alors il y a des profs de musique du conservatoire qui viennent donc leur apprendre les chansons. Cette année, c'est 4 chansons. C'est beaucoup de travail, beaucoup de coordination, mais c'est que du bonheur.
Et alors, c'est quoi le Festival Ville des Musiques du Monde ?
Alors, le Festival Ville des Musiques du Monde, il est né en 1998 dans une maison de jeunes. C'est André Falcucci, qui est notre président, qui était alors directeur d'une maison de jeunes. Il s'est dit, mais il ne se passe rien au mois de novembre, on va essayer de faire quelque chose. Et très vite, ce festival, il est devenu intercommunal. Il y a 3 villes qui sont venues. Il y a La Courneuve, il y a Épinay. Et puis maintenant, il y en a 18. Et il y a même Paris.
Et né de ce projet-là, donc, la Cité des Marmots.
Et ben voilà, donc en 2008, donc c'était Habib Kouaté. Il y a des enfants qui étaient troublés d'ailleurs parce que, ils chantaient en Barbara à la maison et puis ils chantaient à l'école en Barbara. Et du coup, quelque part, les parents, ils étaient contents. Il y avait une espèce de reconnaissance.
Et c'est important de faire ça ici dans les écoles de Seine-Saint-Denis ?
C'est très important, bien sûr, parce que c'est quand même une urbanisation difficile ici, des enfants qui vivent dans une certaine précarité. Et du coup, c'est des enfants qui sont aimés, bien sûr, mais c'est des enfants à qui on ne donne pas forcément une ouverture culturelle. Et là, du coup, on arrive avec nos artistes. Les artistes, là, cette année, la compagnie Rassegna, ils sont venus 3 fois les voir quand même. Et puis, ils considèrent les enfants comme des compagnons de scène. Et pour eux, ça, c'est important. Et puis, je pense que s'il y a des enfants qui ne se sentent pas bien dans leur peau, dans leur corps, là, du coup, il y a un groupe, il y a une coopération. Les enfants, ils chantent ensemble. Tous ensemble, et je pense que du coup ça redonne confiance à certains enfants. Nous, c'est notre volonté. Et cette année, en plus, on a voulu que les parents ils s'investissent un petit peu. S'investir, c'est peut-être un mot un peu fort. Alors là, tout à l'heure, là, à Stein, il y a des parents, d'ailleurs, j'ai déjà vu, je crois, sur la table, qui ont fabriqué des petits mezzés sucrés, soit de leur pays, soit d'un autre pays, de la Méditerranée. Et on va discuter avec eux, les artistes vont discuter. C'est un premier pas vers le spectacle qui aura lieu le 11 et 12 mai à Aubervilliers. Et moi, j'aime bien aller là où la culture ne va pas et emmener des familles pour la première fois dans une salle de spectacle et voir des étoiles dans leurs yeux. Enfin, ça donne des frissons. Voilà, je suis bavarde. Hein. Tu couperas.
Oui, allô.
André Falcucci ?
Oui, présent.
Bonjour. Vous êtes le président du festival Ville des Musiques du Monde. Quel est votre parcours et quel est le lien avec l'éducation populaire ?
Déjà, l'origine du festival, c'est-à-dire que le festival est né à l'Office municipal de la jeunesse de Vervilliers, qui est une association d'éducation populaire. Et j'ai été membre de plein d'associations d'éducation populaire, les Franca, les CNEA, les Éclaireurs de France, enfin, tout ce mouvement un peu compliqué, parce que c'est pas univoque, mais d'accès à la culture du plus grand nombre, mais aussi promotion des cultures minoritaires. Voilà. Et moi, j'assume les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois accéder à la culture savante et la culture dite bourgeoise, mais aussi promotionner les cultures minoritaires, les cultures populaires, qui sont pas valorisées facilement, naturellement. C'est les deux éléments pour moi. C'est-à-dire qu'il y a, dans des territoires comme ceux de la Seine-Saint-Denis, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses extraordinaires qui se développent et qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de visibilité. Donc déjà favoriser ça et puis aussi faire que les enfants, les jeunes, les gens, les habitants de ces territoires accèdent à tous les niveaux de culture, pas seulement la culture populaire au sens du terme, c'est-à-dire la culture standardisée, mais aussi des formes de culture élaborées, savantes, qui donnent un regard sur le monde et qui sont intéressantes et qu'il faut partager. On cause beaucoup de l'identité ces derniers temps. Moi, je pense que ce qui est terrible, c'est l'identité unique, quoi. Et que ce qui est important, c'est de se fabriquer sa propre identité à partir d'identités multiples. Des territoires comme la Seine-Saint-Denis sont, de ce point de vue, des territoires d'une grande richesse.
Allez, c'est reparti. Même chose. Je pense qu'on peut se remettre debout pour ça. Pour envoyer la bonne énergie.
Ok.
1, 2, 3, 4.
Locura ningún si rujano aitará, rasi aitará, no aitará, la niña de mi corazón
aitará, rasi aitará.
Alors, ça vous plaît de chanter?
Oui.
Alors, comment vous vous appelez, vos prénoms?
Nathan Philippe pour moi.
David Jouaté.
Manel Bouzizi.
CM.
Fida.
Mohamed.
Et vous connaissez ces chansons déjà ou pas?
Oui.
Ah bon?
Bah oui.
Non, mais avant de commencer l'atelier?
Non, on ne la connaissait pas.
D'accord.
On ne connaissait pas le projet.
Non, ouais, on ne savait pas.
Et alors, ça, c'est vrai, ça vous plaît?
Oui, ça nous plaît beaucoup.
On est heureux de le faire.
C'est vrai?
Je suis contente d'avoir connu Paola. Elle est très gentille avec
moi. En fait, moi, je l'avais fait deux années.
Là, c'est la deuxième année que je fais.
Et là, maintenant, vos parents, ils viennent?
Oui.
Et ils ont préparé à manger, c'est ça, des spécialités?
Moi, j'ai ramené du couscous.
Moi,
du couscous.
Des spécialités méditerranéennes.
Moi, j'ai ramené des bouchées. Moi, ma mère, elle va emmener un gâteau avec des frites de la Méditerranée.
Moi, je vais faire un gâteau à la tarte aux pommes.
Moi, je vais faire un cake, j'ai déjà fait, il est là, aux olives et au thon.
Moi, j'ai ramené de la boisson Oasis.
Je suis trop contente de passer.
Moi aussi. Là, il est 11h30 et vous arrivez, vous pas tarder.
Bah, merci la compagnie Rassegna pour ce moment.
Alors Sylvie, tu me présentes la compagnie?
On est installé dans le quartier de Noailles, qui est un quartier populaire, un quartier de marché. Et on travaille en fait sur les musiques populaires de Méditerranée. Et depuis quelques années, on travaille soit dans le cadre des Jeunesses Musicales de France ou dans ce projet-là, ou avec les enfants, c'est-à-dire qu'on vient plusieurs fois dans leur classe. Et on travaille sur le répertoire méditerranéen.
Et là, vous leur proposez quoi, alors?
Des chansons qui viennent de la tradition populaire, des chansons comme qui viennent autour du flamenco, des coplas, de la chanson arabe comme la mabada, des chansons grecques, milomou. Donc c'est un parcours autour de la Méditerranée. Donc des chansons qui sont très très connues dans les pays. Et peu importe qu'ils soient familiarisés avec ces langues-là, c'est vraiment, on le pense comme musique. C'est-à-dire que s'habituer à chanter dans d'autres langues, avec d'autres rythmes, et de travailler ensemble, de jouer ensemble. On travaille avec 400 enfants, et on est venu, une semaine à chaque fois sur Paris, et en voyant Astin, à Villetaneuse, à Saint-Denis, dans les villes où les écoles se sont inscrites dans les projets. Et on va présenter sur scène, ils vont présenter avec la compagnie Rassegna, ils vont présenter les chansons en concert devant le public, devant leurs parents. Donc c'est un grand moment en général. Donc voilà, ils sont très préparés et ils ont vraiment une super énergie. Ils sont vraiment chouettes.
C'est tout. Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Subata, decola entre la retama y la hierba buena. Ay tarara, sí, ay tarara, no, ay tarara, la niña de mi corazón.
Aïtara.
Alors la salle de l'Embarcadère à Aubervilliers est pleine, il y a toutes les familles qui sont dans la salle, cette grande salle de l'Embarcadère à Aubervilliers, une belle salle de spectacle, flambante neuve, et tout le monde a sorti son téléphone et va filmer, prendre des photos de ce moment mémorable.
Ben oui, ils ont travaillé depuis 3 mois sur toutes les chansons et tout, oui, c'est intéressant.
Alors quel âge il a votre enfant ?
Bah en fait c'est 2 classes, c'est CE2 et CM1 de l'école où il est en fait. C'est Épinay-sur-Seine. Vous connaissez ?
Alors, ils vont chanter quoi ?
Ah, je sais pas, j'ai pas pris. J'ai pas eu le temps de réviser.
En tout cas, vous allez prendre des photos, hein ?
Bah j'essaye parce qu'avec un vieux appareil, j'essaye.
Bon, bah, bonne soirée, merci.
Kamel Dafri, directeur de l'association Ville de Musique du Monde. Les intentions du festival Ville de Musique du Monde ont toujours été à la fois de concilier la démarche artistique et une démarche éducative forte. Or, même si le festival se déroule durant 5 semaines, toute notre démarche éducative ne tient pas en 5 semaines. D'autant qu'on travaille avec une vingtaine de villes partenaires, et particulièrement sur le terrain de l'école, l'institution de l'école, l'école républicaine, pour offrir et partager ses répertoires de chants et des musiques du monde. Et pour nous, c'est assez essentiel que l'école républicaine puisse accueillir ces langues et ces chants venus d'ailleurs, parce que ce n'était pas naturellement un fait établi. En 2008, quand on a démarré l'opération en 2008, moi j'ai le souvenir de discussions avec l'académie qui me disait « Mais pourquoi vous voulez accompagner les enfants à chanter en bambara ?» Je me souviens avoir répondu un peu en provocation que pour moi, le bambara, c'est une langue régionale en Île-de-France. C'était au même titre qu'on pouvait emmener les enfants sur un parcours d'apprentissage en breton, en basque. On emmène les enfants aujourd'hui sur cette cité des marmots méditerranéenne en 2016 sur un parcours de chant populaire de Méditerranée. La Méditerranée et la Seine-Saint-Denis, pour nous, c'est essentiel. Il y a un effet miroir qui est extraordinaire. Les musiques permettent de raconter tout ce qui ne se dit plus aujourd'hui en termes des questions vitales, d'identité, d'histoire. Et voilà, tout ce partage de patrimoine, finalement, qui est un patrimoine commun. Voilà, on a irrigué pendant 6 mois les villes, en tout cas les 8 villes partenaires, de cette démarche-là, avec des rencontres sur le temps scolaire, des rencontres hors temps scolaire. C'est une démarche au long cours, finalement, c'est tout le travail sur le temps invisible qui nous permet de marcher sur 2 jambes pour tenir nos objectifs.
Ça va commencer là, hein, je crois qu'il faut y aller. Donc là, aujourd'hui, c'est la restitution. Hein.
Ouais. Voilà.
Merci, bonsoir à tous. Quelle histoire, dites donc, quelle histoire. Il y a 6 mois, on est arrivés, mes amis et moi, et on a rencontré donc 440 petites personnes merveilleuses, merveilleuses. Ils nous ont nourri de 1000 choses qui nous ont beaucoup, beaucoup touchés, beaucoup. Ça nous a profondément bouleversés et sans en faire trop, vraiment changé, en fait. Et voilà, depuis 6 mois, on avait en tête ces soirées, la soirée d'hier et la soirée de ce soir. On leur parlait beaucoup, on leur demandait de s'imaginer ce soir, le soir où ils seraient devant vous. Et là, on y est, ils y sont. Et voilà, on est très émus et très fiers de vous les présenter, même si vous les connaissez bien mieux que nous, et pour cause. Et voilà, c'est quelque chose de très, très important pour nous, ce qui est en train de se passer. Merci, en tout cas, dès maintenant, d'être là. Bravo, bravo, parce que vraiment, vous êtes en train de construire une petite génération d'enfants absolument formidables. Merci.
La tarara, une jolie chanson d'Andalousie avec les minots et les marmots.
Go back and get it.
Voilà, c'était la Cité des Marmots par l'association Ville des Musiques du Monde qui vous propose aujourd'hui même, dans le même esprit, la Folie des Fanfares au Parc de la Villette à Paris. C'est gratuit et c'est jusqu'à 22h ce soir.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Que le bruit court. Hashtag Comme un bruit. Juste après les infos, ce sera l'Esprit Inter avec Mathias Degel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.